98.5 Montréal. Voici la commission Normando-Ferrandaise.
8h36, on revient sur le point de presse du trio santé hier. Juste une parenthèse, vous dire ce matin qu'il y a plusieurs infos qui circulent concernant l'Ontario. Le premier ministre Doug Ford qui va faire l'annonce de mesures en après-midi 14h. Et Radio-Canada, entre autres, dit qu'on devrait annoncer la fermeture des commerces non essentiels. Ce qui est quand même pas rien, là. Fermeture des écoles et également ce qu'on appelle l'ordre de rester chez soi. C'est pas tout à fait un couvre-feu, mais c'est quand même assez sévère. Donc, en principe, ça va être annoncé. Ici, il y a eu des ajustements. Fermeture des gyms, merci à Québec. Et aussi, donc, le retour au mode de l'alternance pour les élèves de secondaire 3, 4 et 5. Alors, est-ce que, puis la question est bien simple, est-ce qu'on doit y aller, là, comme fermement, oui, radicalement pour une période, le traitement choc pour une courte période, ou y aller doser là, selon l'évolution de la situation, Nathalie?
Oui, c'est la question à 100 $ aujourd'hui. Moi, je doute que politiquement, le premier ministre veuille mettre le Québec sous une bulle de verre. Là. Je doute que, en fait, selon moi, ce serait périlleux parce qu'on pourrait imaginer, un scénario où, par exemple, la Gaspésie ou l'Abitibi-Témiscamingue, qui est en zone jaune, retomberait en zone rouge alors qu'il n'y a pratiquement pas de cas. Ça va très bien de ce côté-là. Le mur à mur, on a fait ça au début de la pandémie, il faut s'en rappeler, mais à un moment donné, ça devient intenable, tant sur le plan politique, social qu'économique. Le premier ministre l'a dit hier, avril sera le mois de tous les dangers, donc il nous prévient de réduire nos contacts, puis il faut serrer les coudes. Bon, la question, c'est pendant combien de temps? Je dirais presque depuis un an, le gouvernement a privilégié la stratégie « la chèvre et le chou ». Tu sais, l'expression « on ménage la chèvre et le chou » là, versus la stratégie employée dans une minorité de juridictions sur la planète, c'est-à-dire la stratégie d'éradication de la COVID, zéro COVID. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire, bon, on ouvre les écoles, mais on ferme les restos. Ça veut dire qu'on permet les rassemblements dans les lieux de culte, mais on interdit ceux à la maison. Donc, on lutte contre le virus tout en permettant à l'économie de continuer de fonctionner. Alors, on est vraiment dans une stratégie de, on mesure la balance des inconvénients, on gère les attentes. Et je sais que ça devient extrêmement pénible, surtout depuis le début de la pandémie. Ça fait quoi, plus d'un an? Et je me faisais la réflexion suivante. Je dis, la devise du Québec, c'est « je me souviens ». Mais au rythme où on va, tantôt, la devise du Québec, ça va devenir « on est tanné ». Parce que c'est vraiment ça, là, « on est tanné ». Mais en même temps, le gouvernement, j'ai envie de vous dire, fait ce qu'il peut. Cependant, la critique que je pourrais formuler, et puis je ne sais pas si vous avez une réponse, mais hier, lorsque j'entendais le premier ministre dire « on a eu une réunion la semaine passée, puis on nous a fait part des projections de la santé publique », mais je ne sais pas, établir une projection, on fait ça sur combien de temps? Sur 3 jours? Sur une semaine? J'ai de la difficulté à croire que on établisse des projections sur une si courte période. J'entendais ce matin Paul, puis j'ai laissé le micro à Luc, Nicolas Prévost dire on a besoin dans le secteur d'éducation de la prévisibilité, un petit peu, tu sais, est-ce qu'on peut gérer plus qu'à la petite semaine? Ça, c'est la grande question, puis si j'avais une critique à formuler, c'est celle-là. Il me semble qu'on pourrait, avec les projections qui sont disponibles, il me semble qu'on pourrait voir un peu plus loin.
Luc? Ben écoute, moi je comprends les deux parties. Là, j'ai beaucoup de personnes qui me parlent, des infectiologues, des personnes qui travaillent en santé publique, des personnes qui travaillent dans les CHSLD, etc., et qui me disent c'est vraiment épeurant le maudit variant. Et ils me l'ont expliqué comme il faut. Fait que je vais me permettre de le faire aussi rapidement, en une minute. C'est que le virus, c'est une cellule qui se reproduit imparfaitement. Et des milliers de fois, des milliers de fois, des milliers de fois, mais imparfaitement. Et donc, il y a des erreurs. Parfois, l'erreur est inoffensive parce que, justement, à cause de cette erreur-là, il se transmet moins facilement. Et parfois, l'erreur le rend beaucoup plus dangereux. Ce que les infectiologues disent, c'est que c'est une question de temps avant que, tant que la pandémie dure, le virus se reproduit, puis il fait des erreurs, puis il fait des erreurs. Ça va arriver qu'un jour, une de ces erreurs-là va dépasser les vaccins. C'est-à-dire que l'erreur va être plus va créer un virus qui ne sera pas couvert par les vaccins. Donc, il faut l'éliminer le plus vite possible. Le fait de ralentir, de couper, c'est pas juste pour que moins de gens l'attrapent, c'est aussi pour qu'il se multiplie moins, pour qu'il se transforme moins. Alors, ils ont tout un bon dossier à dire. Allons-y pour la COVID-0, fermons tout. Ça, c'est le dossier de la santé. Le dossier du gouvernement n'est pas mauvais non plus, parce que ce que le gouvernement nous dit à la base, c'est la discipline, ça ne s'invente pas. Tu sais, les gens font « faites comme l'Australie, faites comme la Corée du Sud, ben faites comme la Nouvelle-Zélande ». Oui, mais là-bas, Il y a pas un taux d'adhérence aux règles qu'on émet beaucoup plus forte qu'ici. Je disais la semaine passée que chez les moins de 25 ans, le taux d'adhérence aux règles qui sont données est de 33 %, 1 sur 3. Comment tu fais pour faire passer ça de 33 % à 80 %? Ben, tu es obligé de mettre des mesures comme le couvre-feu. Après ça, tu fais de la vérification, de la police, etc. À un moment donné, il va falloir que tu mettes beaucoup, beaucoup, beaucoup de contraintes. Peut-être qu'on va arriver là. Il y a des moments où on était là, il fallait le faire. Ça a été fait, en partie. Mais peut-être qu'il va falloir rentrer dans un parc, puis vider la place, puis rentrer dans les maisons, puis donner une autre culture que la nôtre. T'sais. On n'a pas cette culture-là. Est-ce que le gouvernement est capable de nous la rentrer de force? Fait que le gouvernement a dit, moi, je ne pense pas que je suis capable de la rentrer de force. Je vais vous mettre des mesures qui sont acceptables en fonction du risque. Alors voilà le dossier du gouvernement. Là, maintenant, je laisse Nathalie décider.
Non, mais c'est intéressant parce que tu poses la question, tu apportes la dimension culturelle, c'est-à-dire notre attitude comme citoyen face à des mesures qui nous obligent à être plus disciplinés. Puis moi, j'apporte la dimension plus politique. Évidemment, les deux se complètent. Mais la clé, puis tu l'as dit, Paul, un peu plus tôt dans l'émission, la clé, c'est la vaccination. Et là, évidemment, j'entendais, il faut juste se rappeler les paroles de Christian Dumais, ministre de la Santé, qui disait « On est comme une voiture qui n'a pas d'essence. » Il disait ça à ton micro quoi en février dernier. Mais là, le réservoir est plein au bouchon. Alors, est-ce qu'on peut appuyer sur l'accélérateur? C'est vraiment, je pense que c'est ça qui va nous permettre, en tout cas, j'espère, j'ose de croire, c'est ce qui va nous permettre de diminuer la progression du variant. Mais l'exemple qui me vient en tête, c'est la Grande-Bretagne. 6 jours avant Noël, Boris Johnson, premier ministre là-bas, a reconfiné une partie de la population, pas l'entièreté de la population. Sont quoi? 66 millions au Royaume-Uni. Le reconfinement là, de décembre dernier, face à la montée fulgurante du variant, a touché à peu près 19 millions de personnes. Aujourd'hui, selon moi, c'est l'exemple à suivre. Aujourd'hui, 54 % des citoyens là-bas sont vaccinés et en juin, Boris Johnson espère revenir à une certaine normalité. Alors, je trouve que ça, c'est encourageant. Donc, il y a des exemples qu'on peut suivre et qui peuvent nous inspirer sur la suite des choses.
Oui.
Un commentaire, si tu permets, Luc, juste 2 secondes, un commentaire sur Christian Dubé. Parce qu'on critique souvent nos politiciens, mais j'aimerais dire que Christian Dubé, c'est un super communicateur. L'art, la communication politique, c'est un art en soi et je trouve qu'il la maîtrise de mieux en mieux. Hier, on l'a senti extrêmement fâché, frustré de savoir qu'il y a 5000 doses qui n'ont pas été données en fin de semaine. Il dit, j'ai trouvé ça difficile. Il dit, je veux qu'on continue à être les meilleurs au Canada. Moi, j'aime ça entendre un ministre de la Santé qui a ce genre d'ambition, puis qui dit à ses PDG partout au Québec, ses PDG du CIUS et du CIS, hey gang, ça n'a pas marché en fin de semaine, là. On veut que ça marche mieux. Je tiens à le souligner parce que c'est quand même, souvent en politique, le message est aussi important. En fait, la façon de livrer le message est aussi important que le message lui-même. Et là-dessus, honnêtement, c'est un atout pour le gouvernement de François Legault.
Quand on regarde l'exemple de la Grande-Bretagne, tu sais, les trois exemples Grande-Bretagne, oui. Dans la vaccination, là, Grande-Bretagne, Israël, États-Unis, mais il faut quand même considérer que même dans ces pays-là, beaucoup de voix s'élèvent pour dire quand tout le monde va avoir été vacciné, rien n'aura été réglé.
Parce
que, on l'a vu avec les trois variants, là. Un variant en Afrique du Sud qui va ressoudre toi, à Rouyn-Noranda.
Ça demande par quelle route il est passé.
Ben, par la route du cuivre, sans doute, parce que ça ouvre de la potasse ou je ne sais pas quoi, quelque chose d'un travailleur, tu sais. Puis ça, c'est une possibilité. À Vancouver, le variant, le P1, le variant brésilien là, qui a été première fois détecté au Japon, est rentré dans une institution, 270 personnes qui ont été atteintes. Plus de personnes dans une institution à Vancouver que dans l'ensemble des États-Unis. Donc, on sait qu'il y a des variants qui sont extrêmement contagieux. Ils ont des effets létaux plus importants aussi. Ils ont des effets sur la santé des jeunes qui sont plus importants. Et ce que ça va faire, ça, c'est que là où il va rentrer, il va se développer à toute vitesse. Et comme on va vacciner juste le monde occidentalisé, parce qu'en ce moment, ça crie pour se faire vacciner partout dans le monde, dans le tiers-monde, ce qu'on appelait le tiers-monde. Je ne sais pas comment on l'appelle aujourd'hui. Quand je faisais des études, on appelait ça le tiers-monde.
Oui, c'était raison, les pays en développement. Là,
oui, les pays en développement. Ça, bon, là, on prive l'Inde, on prive le Brésil, on prive des grands pays de suffisamment de vaccins. À un moment donné, ils vont ressoudre. Ils vont ressoudre sur nos territoires. Et tout va être recommencé. Est-ce que ce variant-là va être protégé par les vaccinations qu'on va avoir faites? Est-ce qu'il va falloir développer un nouveau vaccin?
Oui.
Est-ce qu'il va falloir reconfiner? On est parti pour un grand tour.
Oui, mais Luc, attends, je reviens à la Grande-Bretagne. Samedi dernier, 10 décès, le bilan le plus positif depuis
septembre. Oui, oui, prenons les bonnes nouvelles. Prenons les bonnes nouvelles
non,
là
c'est
où
vrai,
elles sont.
Ça,
mais
non,
c'est, t'as raison,
mais
t'as raison.
Ça, c'est encourageant. La Grande-Bretagne, par contre, attends une minute, là, impose le passeport sanitaire. Il contrôle de façon stricte les frontières. Dépistage de masse. Les déplacements à l'étranger sont interdits jusqu'au 17 mai, sauf ces déplacements essentiels. C'est pas juste le masque à distanciation physique, là. C'est tout le kit, là. T'sais, écoute, on embrasse très, très large pour effectivement essayer le plus possible de circonscrire ce variant qui est extrêmement dommageable.